commence en lisant quelques versets de Romains 11 et 12. Aux profondeurs, dit Paul, le plus grand implanteur qui ait jamais existé. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements soient insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 11, 33 à 35 et 12, 1. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est si vous êtes déjà un planteur d'église, ou bien si vous faites partie d'un noyau d'un planteur d'église, que vous partiez d'ici le cœur réchauffé par l'évangile de Jésus-Christ et que vous soyez de plus en plus convaincus que l'évangile doit modeler de tout en tout votre implantation d'église. Et si vous n'êtes pas encore engagé en tant qu'église ou en tant que personne dans l'implantation de nouvelles églises, que vous partez d'ici convaincu que si vous croyez l'évangile et si vous voyez la profondeur et l'étendue de l'évangile, que cela vous pousse inéluctablement par acte d'obéissance à vous engager personnellement et en tant qu'église dans des projets d'implantation de nouvelles églises. Je vais jusque-là. Je vais jusqu'à dire que si on a compris l'évangile, l'étendue et la profondeur de l'évangile, on doit inéluctablement, par obéissance et par gratitude et pour la gloire de Dieu, partir dans des projets d'implantation de nouvelles églises. Des questions sont possibles à la fin de l'atelier, évidemment. Mais d'abord, je dis que l'évangile doit être au centre de l'implantation en tant que message, en tant que motivation, en tant que méthode et en tant que modèle. Et on va essayer de couvrir ces quatre titres. D'abord, le message. On va voir quel est le message de l'évangile dans un instant. Mais la thèse est la suivante. Si nous comprenons la profondeur et l'étendue de l'évangile, nous serons engagés dans l'implantation de nouvelles églises. Parce que c'est dans le cœur du message même que d'implanter de nouvelles églises. J'essaie de démontrer cela maintenant. Quel est le message que nous avons à communiquer dans l'implantation de nouvelles églises? Quel est le message central de la Bible? Quel est le message de l'Évangile? Cela est compris lorsqu'on aura dit la chose suivante. La personne est l'œuvre de Jésus-Christ. La personne est l'œuvre de Jésus-Christ, le message central de la Bible, le message de l'Évangile. Si on comprend cela, sa profondeur et son étendue, on partira, on s'engagera, on soutiendra les nouvelles implantations. Calvin, et on va faire beaucoup référence à Calvin, M. Blocher l'a mentionné ce matin, il a un style de langage et une profondeur théologique absolument inouïe. Il va nous accompagner tout au long de ce séminaire. Voilà ce que Calvin dit par rapport à l'Évangile. Voici donc la vraie connaissance de Jésus-Christ. Que nous le recevions tel qu'il nous est offert du Père, à savoir vêtu de son évangile. Le voyez-vous, Jésus-Christ, s'avancer vers vous, vêtu de toutes les promesses de l'évangile. Et parfois, en tant qu'évangélique, parfois en tant que personne convaincue de la centralité de l'évangile, qui parlant aisément de la centralité de l'évangile, nous avons tendance à faire abstraction des bienfaits de l'évangile. Et nous séparons, quelque part, les promesses de l'Évangile, de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, de la connaissance profonde de celui qui est, en sa personne et en son œuvre, l'Évangile lui-même. Alors, arrêtons-nous maintenant et passons en revue ce que c'est l'Évangile, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je me rappelle une fois, j'avais un entretien post-baptême avec quelqu'un qu'on venait de baptiser, il s'appelait Denis. Et Denis s'assoit dans mon bureau et je lui dis, « Alors, ça va, Denis? Tout va bien? » Denis était content d'être baptisé. Et pour commencer la conversation, je lui ai dit, « Alors, Denis, si tu peux, résume pour moi l'Évangile. » Grand blanc. Et je me suis dit, « Mince, on vient de le baptiser. » Et Denis n'a aucune idée de l'Évangile. Donc, j'ai essayé de trouver des moyens pour l'encourager à parler de l'Évangile. Et donc, je lui ai dit, « Alors, qui est Jésus ?» Et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, Denis a souri. Il a commencé à parler longuement de qui était Jésus pour lui. et ce que Jésus avait fait pour lui. Et lorsqu'on comprend ces deux choses-là, cela nous pousse vers l'implantation de nouvelles églises. Regardons ensemble ce que Calvin dit, encore une fois, dans l'institution de la religion chrétienne. Cette fois-ci, livre 4, 17, 2. C'est l'échange admirable. Tout est, pardon, retranscrit sur les feuilles. Vous pouvez les prendre à la fin de l'atelier. C'est l'échange admirable que de sa bonté infinie. Vous le voyez? La bonté infinie de Dieu. Cette bonté qui le pousse vers nous, dans son cœur, par les compassions de Dieu. Sa bonté infinie. On ne peut pas le mesurer, cette bonté. Elle est infinie. Il a voulu faire avec nous qu'en recevant notre pauvreté. Vous voyez votre pauvreté. Vous voyez votre pauvreté dans le péché. Vous voyez votre pauvreté dans votre finitude. Vous voyez votre pauvreté à tous égards. Vous n'avez rien à donner à Dieu, Romains 11. Vous n'avez mais rien. Et dans votre pauvreté, les choses admirables que Jésus fait avec vous, c'est qu'il nous a transféré ses richesses. En portant notre débilité sur soi, notre stupidité, nos défaillances, il nous a donné sa vertu. Pensez à toute la vertu que nous voyons dans tous les évangiles, les quatre évangiles qui dépeignent comme un miracle venu du ciel, l'homme Jésus-Christ. Sa bonté et sa vertu est transférée à nous malgré notre péché. En prenant notre mortalité, nous allons tous mourir. Il a fait son immortalité nôtre. En recevant le fardeau de nos iniquités, duquel nous étions oppressés, il nous a donné sa justice pour nous appuyer sur elle. Combien de fois, moi, dans ma vie de chrétien, j'ai été opprimé par mon péché. Et combien de fois j'ai pu m'appuyer sur la justice que Jésus me donne. En descendant sur terre, écoutez bien, il a fait voix au ciel en se faisant fils d'homme. Il a fait de nous enfants de Dieu. Vous le voyez, Jésus qui vient vers vous vêtu des promesses de l'Évangile. C'est l'échange admirable. Mais lorsque Calvin réfléchit à l'Évangile, lorsque nous réfléchissons à l'Évangile après lui, nous voyons que ce n'est pas juste l'Évangile globalement, mais l'Évangile dans toutes ses parties qui est transformateur. Pour notre vie, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, dans tous les détails de ce que nous voyons dans la Bible, tout cela est transformé dans le détail de notre vie quotidienne. Et donc, nous citons de nouveau les trésors que nous voyons dans le Christ. Donc, puisque nous voyons que toute la somme et toutes les parties de notre salut sont comprises en Jésus-Christ, il nous faut garder d'en transférer ailleurs la moindre portion qu'on saurait dire. Et puis, Calvin, il reprend le symbole des apôtres. Et il nous montre en quoi chaque partie de la vie et du ministère et de la mort, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ transforment notre quotidien. Si nous cherchons salut, le seul nom de Jésus nous enseigne qu'il est en lui, le nom qui veut dire Dieu sauve. Si nous désirons les dons du Saint-Esprit, nous les trouverons en son onction. Il a reçu le Saint-Esprit, Jésus, sans mesure, pour donner à ses enfants, sans mesure. Vous voulez le Saint-Esprit? Venez voir Jésus. Venez à lui, venez à sa croix, venez à sa résurrection, venez à son onction. Demandez le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Si nous cherchons force, elle est en sa Seigneurie. Si nous voulons trouver douceur et bénignité, sa nativité nous la présente. Ça, c'est utile pour vous qui, comme moi, luttez avec l'arrogance, avec la fierté, avec le fait de se penser mieux que les autres. Lorsque cela m'arrive, suivant Calvin, je vais à la nativité, je vais à la crèche, je vais au bébé Jésus, le Seigneur de tout l'univers, dans le corps d'un bébé. Et je me dis, comment je peux être fier? Comment je peux être arrogant? Comment je peux penser mieux que quelqu'un d'autre? Si Jésus, le Seigneur de tout l'univers, s'est fait homme comme cela. Vas-y, vas-y. Comme tu veux. Si nous demandons rédemption, sa passion nous la donne. En sa condamnation, nous avons notre absolution. Si nous désirons la malédiction nous soit remise, nous avons ce bien-là en sa croix, la satisfaction en son sacrifice, purification en son sang. Notre réconciliation a été faite par sa descente aux enfers. La mortification de notre chair gît en sa sépulcre. Le péché revient. Ce péché encore. Et je suis accablé. Et vous êtes accablé. Et Calvin nous invite à penser au sépulcre, au tombeau où Jésus était mis au tombeau. Son corps gisait inerte et mort dans ce tombeau. Mon péché gît avec lui, dans son tombeau. Et je repars, renouvelé par ce qu'il a fait pour moi. La nouveauté de vie en sa résurrection, en laquelle nous avons aussi espérance d'immortalité. Nous avons tout en l'évangile de Jésus-Christ. Si nous cherchons l'héritage céleste, il nous est assuré par son ascension. Si nous cherchons aide et confort et abondance de tout bien, nous l'avons en son règne. Si nous désirons d'attendre le jugement en sûreté, nous avons aussi ce bien en ce qu'il est notre juge. Je vais vers le jugement, Jésus mon sauveur est mon juge. Et je suis absolument en sécurité devant lui. En somme, puisque tous les trésors de tout bien sont en lui, il nous faut de là puiser pour être rassasiés, et non d'ailleurs. Et maintenant, nous disons allégrément, le salut c'est par l'évangile, et aussi la transformation c'est par l'évangile, mais aussi je vais aller plus loin, la mission et le ministère c'est par l'évangile, et tout cela coule de source. Je suis sauvé par l'évangile, qui est Jésus revêtu dans les promesses de l'Évangile. Je suis transformé dans tous les détails de ma vie par l'Évangile qui est Jésus, sa personne et son œuvre. Mais je dois aller plus loin. Jésus qui me sauve, Jésus qui me transforme, c'est le même Jésus qui m'envoie, qui a fait cela non seulement uniquement pour moi, mais pour le monde entier. Et si j'ai compris la profondeur et l'étendue de l'Évangile, je dois avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce Jésus-là qui a fait tout cela pour moi. Pourquoi moi, je pourrais bénéficier de l'entendre de cette envision-là et ne pas aller le dire à d'autres? Avoir une église chez moi qui annonce l'Évangile, c'est très bien. Mais s'il y a une ville à côté de moi avec 20 000 habitants, où il n'y a aucune église qui annonce l'Évangile, la profondeur et l'étendue de Jésus-Christ vêtu des promesses de l'Évangile. Pourquoi est-ce que j'aurais ça pour moi? Et eux, ils n'auraient pas accès à cela. Et c'était la profondeur et l'étendue de l'Évangile qui avait motivé Paul dans ses efforts d'implantation d'église. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables. Et si on a compris cela, alors on se met en sacrifice sur l'autel et on dit à Jésus, envoie-moi. Sauve-moi, oui. Transforme-moi, oui. Mais utilise-moi également. Je suis à ton service. Je ne peux pas être autre qu'à ton service. La sainteté et la mission sont deux faces de la même pièce de monnaie, qui est le résultat de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ, pour moi et en moi et à travers moi, vers le monde. Une compréhension de l'Évangile qui ne mène pas à la mission de Dieu, par l'annonce de l'Évangile et l'implantation de nouvelles églises, est une compréhension tronquée de l'Évangile. Nous n'avons pas compris l'Évangile avant de partir en mission localement, régionalement, nationalement, internationalement, dans le monde entier. Nous n'avons pas compris l'étendue et la profondeur de l'Évangile, si nous n'avons pas compris cela. Et une fois qu'on a compris cela, l'Évangile commence à nous motiver dans tout ce qu'il dit. Par exemple, le fait que l'Évangile est universel, comment est-ce que cette pensée-là, qui est véridique, et nous le voyons, par exemple dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, elle est dans toutes les nations, comment cette pensée-là me motive pour implanter de nouvelles églises? Parce que tout simplement, si Jésus est Seigneur, Il doit être seigneur de tout. Ils peuvent être seigneurs d'une partie du monde et que le reste du monde ne soit pas sous sa seigneurie. S'il est seigneur, il est seigneur de tout. Et si j'ai compris l'évangile, que Jésus est mort pour le monde et qu'il nous envoie dans le monde, et si j'ai compris que l'évangile est universel, alors je me préoccupe des parties du monde où l'évangile n'est pas encore connu, où Jésus-Christ n'est pas encore nommé. Et cela peut être juste à côté de chez moi, dans une ville avoisinante, où l'évangile n'est pas connu parce qu'il n'y a pas d'église qui annonce fidèlement l'évangile. Et donc je me préoccupe de cela. Ça m'insupporte de penser qu'il n'y a pas d'église là-bas qui prêche l'évangile. Et lorsque je pense à la France, la Corrèze ou la Bretagne, dénuées d'églises qui prêchent l'évangile, ça me préoccupe. Et je prie et je veux faire quelque chose qui va dans ce sens, parce que Jésus est seigneur de l'univers tout entier, du cosmos tout entier. Et de ce fait, il est seigneur de la ville à côté, de la Bretagne, de la Corrèze, et de toute la France, et de toute l'Europe francophone, et de l'Europe, et de l'Afrique. Et une fois que j'ai compris, partout où ma pensée peut vagabonder, Jésus veut être seigneur à cet endroit-là. L'évangile est universel. Mais en plus, l'évangile est particulier. Paul dit, dans un moment très intime, « Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. » Le Seigneur universel de tout le cosmos, il m'a aimé, il m'a sauvé. Et donc cela veut dire que personne n'est au-delà de sa puissance pour sauver. Il est universellement Seigneur, mais particulièrement Seigneur. Il t'a sauvé. Et s'il t'a sauvé, toi, il peut sauver tout un chacun. Et l'Évangile, nous le voyons plus loin dans Galates, l'Évangile n'est pas discriminatoire. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni noble, ni homme, ni femme. L'Évangile est adressé à tous, sans exception. Ce n'est pas parce que vous êtes plus beau, plus intelligent, même si vous l'êtes. Ce n'est pas pour cela que Jésus vous a choisi. Jésus n'est pas discriminatoire dans l'annonce de l'Évangile. Et donc, comment retenir cet Évangile de qui que ce soit? Comment retenir cet Évangile, le garder pour nous, vis-à-vis des cités de nos villes en France? Est-ce que les cités ne mériteraient pas qu'on leur annonce l'Évangile? Ces lieux où l'Évangile aurait du mal à s'enraciner à cause des problèmes de société, peut-être, ou d'autres problèmes. Mais l'Évangile n'est pas discriminatoire. On peut prêcher l'Évangile, on doit prêcher l'Évangile à tous. Et puis en plus de cela, lorsqu'on réfléchit à l'Évangile qu'on a vu tout à l'heure, l'Évangile est profondément transformateur. Ça me transforme dans tout ce que je suis. Il suffit de regarder les multiples façons dont la Bible parle de la transformation de l'Évangile pour voir que si on a en tête quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont besoin d'être transformés, l'Évangile a la puissance pour apporter la transformation qu'il faut, exactement comme il faut. Et donc, si j'aime mon prochain comme je dois l'aimer, et si je vois un problème chez cette personne-là, l'Évangile est vraiment la réponse qu'il faut. Et donc, allons, apportons l'Évangile, implantons les églises là où l'Évangile peut être entendu, accessible facilement par les personnes qui habitent autour de cette nouvelle église. Et puis, si tout cela est vrai, l'Évangile est prioritaire. J'ai du mal à concevoir comment on peut croire tout cela de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, et ne pas penser que c'est absolument la priorité numéro un dans ma vie. Ça passe avant tout. Vous voyez, le message de l'Évangile, qui est le message que nous annonçons, et qui, si on a compris ce message, nous pousse à porter ce message partout, et donc à implanter de nouvelles églises. Ce message est aussi la motivation d'aller partout. Parce que ce message-là, on ne peut pas le contenir. On ne peut pas le mettre dans un coin de notre vie et nous en préoccuper de temps en temps. Ce message, s'il est vrai, il est vrai absolument et prioritairement et doit devenir la priorité de chacun d'entre nous. La priorité dans nos finances, la priorité dans notre temps, la priorité dans notre énergie, la priorité dans nos orientations de vie, nos priorités dans nos choix d'où habiter, qui marier, comment se comporter, que faire. L'Évangile devient prioritaire, la mission de Dieu devient prioritaire et détermine toute notre vie par la suite. L'Évangile, donc, nous motive. L'évangile est donc aussi la méthode par laquelle nous allons implanter de nouvelles églises. Ceci est une vérité d'abord créationnelle. Et ce que j'entends par cela, c'est que c'est tout simplement vrai que ce par quoi on est converti, c'est ce à quoi on est converti. Si, par exemple, je remplace l'évangile avec ma personnalité, et cela se fait couramment, le pasteur ou l'implanteur se croit doué et pense que par la force de sa personnalité ou par son charme naturel, il va pouvoir convaincre les gens. Et donc il met en avant non pas l'évangile de Jésus-Christ, mais sa personnalité et ses dons. Et donc les personnes sont converties non pas à l'évangile, mais à la personne du pasteur. Que se passe-t-il quand le pasteur part? Les personnes aussi partent, parce qu'elles sont converties non pas à l'évangile, mais au pasteur. Et ce à quoi on est converti, c'est ce par quoi on est converti. Même chose avec le spectacle. Si on convertit par le spectacle, c'est au spectacle qu'on convertit les gens. Et une fois que le spectacle n'intéresse plus, les personnes retombent comme des soufflés. Si on convertit par quelque chose, on convertit à cette chose-là. Gardons-nous donc de quelconque méthode que ce soit qui n'est pas l'évangile. C'est une vérité créationnelle. C'est juste comme cela que cela fonctionne. Mais deuxièmement, c'est aussi une vérité théologique et biblique. Si on regarde dans le livre des Actes, par exemple, de quelle manière est-ce que l'évangile progresse et l'Église est implantée? Par la parole de Dieu annoncée, la parole qui est l'évangile. C'est par cette manière-là, et uniquement par cette manière-là, que les églises sont implantées. Si vous voulez regarder dans Actes 6, 7, 11, 20, 21, 12, 24 et 19, 20, vous verrez que Luc fait exprès de mettre l'accent sur l'évangile prêché comme moyen d'implantation de nouvelles églises. L'évangile est la méthode d'implantation de nouvelles églises. C'est aussi une vérité historique. Et là, on revient sur le personnage de Calvin. Vous voyez, Calvin, il est connu beaucoup pour l'institution chrétienne et je vous encourage vivement à parcourir ce livre, peut-être pas de lire d'un bloc, mais de vous familiariser avec Calvin et son institution chrétienne. Il est connu aussi pour la politique, sa façon de gérer la ville de Genève où nous sommes. Il est connu aussi par sa doctrine de la prédestination. Il est connu aussi, malheureusement, pour la mort de Servet, controversé. Mais il est un peu moins connu par ses efforts d'implantation de nouvelles églises. Et j'aimerais bien vous montrer que Calvin, il a implanté de nouvelles églises à partir de Genève, en utilisant la méthode que je viens d'esquisser. Donc Genève avait attiré, pendant la Réforme, beaucoup de réfugiés. Des personnes qui étaient persécutées en France notamment, mais aussi en Écosse, sont venues à Genève pour se réfugier dans cette ville acquise à la Réforme. Autant que la population de Genève avait doublé dans les années 1550. Et il y a un Anglais qui arrive à Genève qui rend ce témoignage-là de Genève. « Genève me paraît être le plus grand miracle de toute la terre, car tant de gens de tous les pays se rendent ici comme un sanctuaire. N'est-ce pas merveilleux que des Espagnols, des Italiens, des Écossais, des Anglais, des Français, des Allemands, si différents en manière, en langue, en habit, vivent ensemble avec tant d'amour et de sollicitude et dans la communion fraternelle, telle une assemblée chrétienne. » Toutes ces personnes-là ramassées à Genève, réfugiées de la Réforme. Et il y avait aussi, au milieu de tout cela, la cathédrale Saint-Pierre, où plusieurs fois par semaine, Calvin se levait pour prêcher l'Évangile. Qu'est-ce qu'on entendait lorsqu'on allait à la cathédrale Saint-Pierre pour entendre Jean Calvin, toutes ses nationalités ramassées sous son enseignement? Nous voyons que Dieu nous a donné un trésor inestimable dans sa parole. Mais il ne suffit pas de nous occuper de notre propre salut. La connaissance de Dieu doit rayonner dans toute la terre. Calvin prêchait le message de l'Évangile pour montrer à son assemblée qu'il fallait qu'ils se réapproprient non seulement de Genève et de leur propre salut, de leur propre sécurité, mais qu'ils pensent comment l'Évangile pouvait rayonner dans toute la terre. Si l'Évangile, disait Calvin, encore une fois dans un sermon sur 2 Timothée 1, 8 à 9, si l'Évangile n'est pas prêché, Jésus-Christ gît encore, pour ainsi dire, en son sépulcre. Faisons-lui donc cet honneur d'être ses témoins, voyant que le monde entier est si loin de lui. Prenez le temps de laisser cette phrase-là arriver dans votre cœur. Si l'Évangile n'est pas prêché, c'est comme Jésus-Christ gisait encore dans son tombeau. J'ai envie de rajouter, si on n'implante pas de nouvelles églises partout en France, partout en Europe francophone, partout dans le monde, si on n'implante pas le résultat de la prédication de l'Évangile pour que l'Évangile rayonne de ces endroits, c'est comme si Jésus-Christ gisait encore dans son tombeau. Parce qu'il est ressuscité, justement, pour que tout le monde connaisse l'Évangile, pour que tout le monde l'entende et vienne à lui. Et pour cette raison-là, Calvin a entrepris un grand mouvement d'implantation de nouvelles églises. On appelle cela la Compagnie des pasteurs. Et des centaines d'implanteurs ont été envoyés entre 1555 et 1562. De Genève, partout. Calvin avait aussi des moyens et le besoin et le soin d'évaluer, de coacher, de former, de soutenir, de correspondre et de prier pour les implanteurs qu'il avait envoyés. Une partie mal connue, mais super enrichissante de l'œuvre de Calvin et les lettres qu'il a envoyées à ces pasteurs-là. Fascinant de dire comment il a suivi ces pasteurs dans leur travail d'implantation. Il les a envoyés en France, mais aussi ailleurs, en Italie et jusqu'au Brésil. Calvin, convaincu de la profondeur de l'Évangile, par l'Évangile, à cause de l'Évangile, a envoyé des implantations partout dans le monde. Et quels étaient les résultats? Quelles étaient les implantations elles-mêmes? En 1555, il y avait 5 implantations à partir de Genève en France. En 1559, il y en avait 100. En 1562, il y avait plus de 2000 implantations de nouvelles églises en France à partir de Genève. Et ce n'était pas facile, c'était dangereux. Et pas n'importe quelle implantation non plus. Plus de 3 millions de gens, 20% de la population française, étaient venus à l'Évangile par l'envoi d'implanteurs, par l'implantation de nouvelles églises. Vous voyez, plus de chrétiens évangéliques convertis à l'Évangile en France au XVIe siècle qu'aujourd'hui au XXIe siècle. Et Calvin, tout simplement, croyait à la profondeur, à l'étendue de l'Évangile et envoyait les gens pour prêcher l'Évangile. C'était son message, c'était sa motivation, c'était sa méthode. Et voilà le résultat qu'il y avait par la suite. À Bergerac, à Montpellier, à Toulouse, à Poitiers, je nomme ces églises-là parce qu'on a des témoignages de ces églises dans les lettres que Calvin a reçues par la suite. Par la grâce de Dieu, il y a actuellement un mouvement tel que le diable est presque totalement banni. Nous sommes en mesure de fournir nos propres ministres de culte. Vous voyez cela, cette phrase-là? Cela veut dire que dans les églises implantées par les implanteurs, envoyées par Calvin, avec l'Évangile comme méthode, étaient en mesure d'en former, après un court laps de temps, leurs propres implanteurs pour implanter d'autres églises autour de l'église majeure. Ça doit être notre vision d'aujourd'hui, d'envoyer des implanteurs tels qu'ils peuvent former d'autres implanteurs afin de parsemer toute une région d'églises centré sur l'Évangile. De jour en jour, nous grandissons et Dieu a ordonné que l'œuvre porte tellement de fruits que lors des sermons de dimanche, il y a entre 4 et 5 000 personnes au culte. Les méga-churches, ce n'est pas aux États-Unis que ça a commencé. Autre témoignage. Notre Église, grâce soit rendue à Dieu, continue à grandir au point où nous sommes obligés de prêcher 3 fois par jour à une congrégation cumulée de 5 à 6 000 personnes. Encore une fois, répéter les cultes n'était pas une idée récente. Les églises que Calvin avait implantées par le biais de ses implanteurs étaient obligées de multiplier le nombre de cultes le dimanche. Notre église a atteint la taille étonnante de 8 ou 9 000 âmes. Il n'y a rien de magique. Le message de l'évangile, sa profondeur et son étendue, la motivation qui vient de cet évangile, Jésus-Christ est universellement Seigneur, particulièrement Seigneur, sans faire de différence de personne. Il transforme les cultures et les personnes et c'est prioritaire. Ça devient la méthode par laquelle Calvin a parsemé la France à son époque d'évangile et d'église. L'évangile au cœur de l'implantation de nouvelles églises. Cela a eu lieu sur notre territoire, à partir de cette ville. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas? On dispose des mêmes choses, du même message, des mêmes motivations, de la même méthode. Et nous avons la même modèle aussi. Mais encore un mot sur une vérité communautaire. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons que la parole de l'Évangile produit inexorablement la communauté de l'Évangile. Et que cette parole et cette communauté ensemble, c'est ça qui constitue la mission de l'Évangile. C'est lorsque la parole retentit de l'Église implantée que la mission est accomplie. Dans notre Église, nous avons des groupes qui travaillent à cela et je vous propose cela comme piste de réflexion. Comment, dans votre contexte actuel, vous pouvez faire en sorte que l'Évangile donne la communauté et que cette communauté, avec l'Évangile, la parole d'Évangile, parte en mission localement, régionalement, internationalement? Comment est-ce que l'Évangile et la communauté et la mission peuvent se conjuguer dans votre contexte afin que votre contexte soit rempli d'évangiles, rempli d'églises centrées sur l'évangile. L'évangile comme modèle. Si on a compris l'évangile, donc, et si on a la motivation de l'évangile, et si on a la méthode de l'évangile, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que l'évangile est le modèle pour le leadership dans l'église centrée sur l'évangile. L'implanteur qu'on enverra sera modelé par l'Évangile et l'implanteur et les équipiers qu'on va former seront modelés par l'Évangile. Parce qu'ils vont porter l'Évangile et il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre ce qui porte l'Évangile et le message qu'il porte. Une correspondance étroite entre ces deux choses-là. Et pour l'illustrer, quelques références bibliques. Le leadership comme service et rançon. Lorsque Jésus parle à ses disciples, ceux qui vont implanter une nouvelle église dans le livre des Actes, il leur donne ce à quoi doit ressembler le modèle de leadership. Si vous avez la Bible, ça vaut la peine de chercher ce passage. Marc 10, 42 à 45. L'évangile est le modèle de leadership que Jésus préconise pour ses disciples. Les premiers implanteurs d'église. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le modèle pour mon ministère en tant que leader dans l'Église de Jésus-Christ est mon maître et sauveur Jésus-Christ qui, malgré le fait qu'il était le Fils de Dieu, il est devenu serviteur de tous. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous êtes serviteur de Dieu, c'est votre modèle de leadership là. Si vous formez des leaders, de futurs leaders dans votre église, voilà ce que vous voulez enseigner et former dans ceux que vous allez envoyer. Et c'est donc sans surprise que nous voyons ces choses-là dans les recommandations pour les leaders diacres ou anciens dans l'Église. Si on avait le temps, on pourrait le démontrer. 1 Timothée 3, Tite 1, 1 Pierre 5. À chaque fois qu'on parle des responsables dans l'Église, on prend comme modèle l'Évangile. Et on dit, voilà l'Évangile et voilà les caractéristiques de ceux qui veulent être responsables. Et un responsable doit porter et communiquer et vivre l'Évangile. Et donc, pas de décalage entre sa vie et ce qu'il dit. Sa vie doit être un miroir et un livre où on peut lire facilement l'Évangile qu'il annonce. Et puis, 2 Corinthiens 4, le ministère de Christ comme le Christ. Comme Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que j'ai reçu ce ministère de la proclamation de l'Évangile, de l'implantation de nouvelles églises. Et dans ce ministère-là, je meurs à moi-même pour vous donner la vie. L'Évangile devient donc le modèle de leadership dans l'Église, dans le détail de comment on met en œuvre l'implantation de nouvelles églises.